Étude, les premiers pas de l'Église primitive. Et là, aujourd'hui, nous allons voir les principes de l'évangélisation, principes dans l'évangélisation, parce que tout le monde a ses idées. Mais comment est-ce que vraiment ils ont commencé? Qu'est-ce que quelques principes de base qui ont été pratiqués par l'Église primitive? Alors, nous allons dans Actes chapitre 13. Donc, souvenez, on avait parlé de l'église d'Antioche qui s'était été constituée, qui était multiethnique, multinationale et multiculturelle, et tous étaient là, et l'œuvre de Dieu était là, et Barnabas était là pendant un temps, puis s'est dit justement, ils ont besoin d'enseignement, je connais la personne qui a fait des études profondes dans l'Ancien Testament, il pourra leur expliquer beaucoup de choses. Et il est allé à Tarse, il a trouvé Saul, il l'a ramené, et pendant un an, Saul a enseigné. Et donc, nous allons lire le début de ce chapitre 13, les trois premiers versets déjà. Acte 13, versets 1 à 3. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Prophète, ça veut dire, c'est le rôle premier du prophète, c'est pas de prédire l'avenir, mais de faire de l'exhortation. Hein, l'exhortation dans la vie de tous les jours, dans la vie chrétienne. Hein, la vie de tous les jours, mais la vie chrétienne. C'était le premier rôle du prophète dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et deuxièmement, il y avait des docteurs. Donc les docteurs, c'est les profs, hein, ceux qui enseignent. Donc il y avait ceux qui... L'exhortation à la vie spirituelle, et puis après il y a ceux qui enseignaient la parole. Et donc, parmi ces gens, donc, les responsables de l'Église, eh bien, il y avait Barnabas, il y avait Siméon appelé Niger, il y avait Lucius de Cyrène, ça c'est la Libye d'aujourd'hui, hein, il y avait Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, ça c'était le roi le plus terrible de l'époque, et il avait une telle fréquentation, mais il a connu le Seigneur. Hein, donc il avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et puis il y avait Saul, hein, donc, que nous connaissons, qui deviendra l'apôtre Paul. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 46 de ce chapitre, donc du chapitre 13, verset 46, il nous dit, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même, vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Alors, ils ont été envoyés, ils ont appelé par Dieu pour faire une œuvre particulière, et ils se mettent en marche, mais ce que nous voyons, c'est qu'ils se sont adressés aux Juifs d'abord, mais ensuite, ils disent, puisque vous ne voulez pas, on se tourne vers les païens, qui étaient toujours, depuis toujours, dans le programme. Et donc, ici, Dieu rassemble une équipe pour accomplir une œuvre et prend deux personnes très différentes. Barnabas, comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est celui qui sait être l'ami de tous, qui sait se rapprocher de n'importe qui sait encourager, il a toujours un mot d'encouragement, il a toujours, celui que les autres ne comprennent pas, lui, il les comprend, c'est lui qui voit le potentiel chez quelqu'un alors que les autres ne voient rien. Barnabas, c'était une sorte, et puis alors Saul, tempérament naturel, c'est le gars, le fonceur, peu importe comment, mais il faut qu'on y arrive. Hein, et puis on a vu, on sait, dans la persécution, il a montré ce qu'il est naturellement. Et bon, ce qu'on est naturellement, parfois ça ressort même quand on est chrétien. Et lui, c'était celui, on le fait. Et Barnabas, c'est celui qui, un peu tempéré, doucement, il encourage. Et peut-être dans un sens, c'est celui qui ramasse, recolle les morceaux derrière Saul. Hein. Mais Dieu choisit deux hommes très différents. Il va les mettre ensemble. Et parce que vous savez, le fer aiguise le fer, comme dit Salomon. Il dit le fer aiguise le fer. Quand vous aiguisez un couteau, on le frotte contre quelque chose, pas contre du bois ou du papier, mais contre quelque chose de dur aussi. Et là, Dieu va faire frotter Saul et Barnabas. Ils vont frotter ensemble jusqu'à ce que tous les deux sont bien aiguisés, mais dans le bon sens. Dieu se sert de nous. Hein, et dans une église, il y a aussi la friction. Mais la friction, c'est pas... c'est une chose de friction dans ce sens, et c'est une autre chose dans le bon sens. Et si c'est vraiment le Seigneur, il sait comment tenir le couteau. Ma femme voulait que ces couteaux soient aiguisés, mais comme je voulais bien le faire, j'ai été sur Internet, j'ai vu une vidéo comment aiguiser un couteau correctement. Et parce que je voulais bien faire. Eh bien, dans une église, peut-être qu'on devrait prendre les choses aussi au sérieux. Plus au sérieux que ce que j'ai pris les couteaux de ma femme. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut aiguiser les enfants de Dieu pour que ça... pas que ça soit tranchant, mais qu'il soit efficace. Hein? Quand on s'en sert, il y a quelque chose qui arrive. Hein? Ma femme se plaignait que ses couteaux, elle va pour couper, ça écrase la tomate au lieu de couper la tomate. Hein? Donc ça ne va pas. Alors, Dieu choisit deux hommes, Barnabas et Saul. On a vu Barnabas, il avait été envoyé à Antioche pour un peu voir la nouvelle église et voir, et puis lui il a reconnu tout de suite, même si c'était pas selon la pensée juive, ça ressemblait pas à une synagogue, mais lui il a vu l'œuvre de Dieu, hein. Et il est allé, et c'est lui qui a vu le besoin, il est allé chercher Saul, il l'a ramené, et ils enseignent pendant toute une année, hein. Saul il a dû... il avait été formé au pied de Gamaliel, il comprenait l'Ancien Testament parfaitement, il pouvait expliquer les prophéties, tout ça, avec en plus, pas seulement ses connaissances, mais en plus l'Esprit de Dieu qui se servait de ses connaissances. Eh bien, il a pu faire un travail. Et Dieu dit maintenant, vous avez fait un travail pendant un an, maintenant j'ai quelque chose de spécial pour vous. Finalement, cette année, alors que eux, peut-être, pensaient être en train de former l'Église, en fait, Dieu était en train de les former. Hein? Et quel meilleur endroit pour avoir un ministère parmi les païens ailleurs que de se former dans l'Église d'Antioche, qui était composée de gens de toutes origines. C'était le lieu de formation. Eux qui formaient, étaient formés. Parfois, on a des grands projets, mais il dit, écoute, là où tu es, c'est là où je te forme. Hein? Alors, nouvelle équipe, choisie par Dieu, Barnabas et Saul. Et vous avez remarqué que Dieu dit, mettez-les à part, donc consacrez-les. Mais il n'a pas dit où. Il n'a pas dit où les envoyer. Il a dit, vous les consacrez, j'ai une tâche. Et puis, il ne dit pas laquelle. Il dit, mais il ne m'a rien dit, je ne sais pas en quoi faire, donc je reste, j'attends. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Barnabas, il a dit, mais moi, je viens de Chypre, je connais Chypre, et bien on va partir pour l'île de Chypre. Il y a un principe important, c'est que le Seigneur dit, écoute, tu veux commencer à me servir, commence là où tu es, avec ce que tu connais, dans le milieu où tu es. Commence là. Hein, on n'a pas besoin de faire 3000 km pour commencer. Tu commences là où tu es. Et Barnabas, il dit, moi je suis de Chypre, allons à Chypre. C'est comme lui, il était le chef de l'équipe, hein, c'était lui le principal. Donc on va dans ce sens-là. Et il y a un principe qui est vrai, et nous devons nous en souvenir. pour ceux qui ont fait déjà le permis de conduire, hein, eh bien, c'est plus facile de conduire une voiture qui roule qu'une voiture qui est stationnée. Même si elle est garée dans le mauvais sens. Hein, la voiture, elle est dans ce sens-là, en fait, je veux aller là. Mais tant qu'elle commence par rouler, je peux pas la diriger. Et donc, Barnabas, dans un sens, avec Saul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à rouler. On dit, on va vers Chypre. Bon, après, Dieu les a pris de Chypre, après, il les a conduits vers Antioche en Pisidie, et puis après, de là, Lystre et tout ça, ils ont fait un parcours, mais ils ont commencé, il n'a pas dit comment commencer, il a commencé à rouler, et je conduis. Et souvent, le Seigneur, il nous dit, écoute, fais ce que tu sais faire, et puis on verra la suite. Hein? Commence à faire, commence à rouler, commence à... Et je te conduirai. Et Dieu est capable de le faire. Et donc, souvenons-nous, fais ce que tu sais faire, fais ce que ta main trouve à faire, et dit à un de ses prophètes, trouve ce que ta main a à faire, et je te conduirai. Commence à faire. Et... qu'est-ce que nous rencontrons? Que très tôt dans ce voyage, dans Actes chapitre 13, eh bien on arrive au verset 9, on voit alors Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Très vite, il commence à travailler avec les païens. Et son nom, c'est un nom hébreu, Shaul. C'est pas facile, on connaît pas, on sait pas le prononcer, tout ça. Ben très vite, qu'est-ce qu'il dit? Il prend un nom latin. C'est Rome. Il prend un surnom latin. Je sais pas si c'est lui qui l'a pris, si c'est Barnabas qui lui a donné cela, si c'est... Je sais pas comment ça a été choisi. Tout ce qu'on sait, c'est que le mot Paulus veut dire le petit. Hein, lui qui avait un problème d'orgueil, eh ben, on lui donne le nom de petit. Et il va être connu comme Paulus, hein, ou l'apôtre Paulus, c'est-à-dire le petit prophète, hein, le petit apôtre. Et donc il va déjà, mais c'est déjà cette attitude, hein, de se préparer, de faire le nécessaire. Il est prêt à... Quand il s'appelait Saul, on savait qu'il était juif. Quand on l'appelle Paulus, et puis comme il parlait bien le grec, ben on ne pouvait pas savoir d'où il était. Hein? Et puis il disait que je suis de Tarse, et il s'intègre. Et donc, quand il y a une attitude aussi, quand on va dans le service de Dieu, c'est qu'on s'adapte au milieu vers lequel on s'adresse. Hein? On voit... quel est leur besoin. Moi, je suis comme ça. Écoute, ils comprennent, tant mieux, ils comprennent pas, tant pis. Moi, je suis comme ça. Mais ça, c'est pas une attitude de serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il dit, mais moi, je veux que tu comprennes. Je vais te parler de manière à ce que toi, tu comprennes. Et donc, c'est cette première chose. Et puis ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Remarquez au verset 13, comment est-ce que ça commence? Paul et ses compagnons, étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Paul et ses compagnons, c'était qui le chef d'équipe? C'était Barnabas. Et là, comment tout d'un coup, c'est Paul et ses compagnons, c'est-à-dire c'est lui le chef et c'est les autres. Vous savez, c'était extraordinaire, c'est que Barnabas, c'était un homme qui s'est formé. Et quand il voit que le disciple, eh bien, est formé et la décapacité, il le laisse prendre de l'avant. Et alors vous allez voir, regardez au verset 43, hein, de Actes 13, 43, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, il nous dit Paul et Barnabas. Vous allez au verset 46, qu'est-ce qu'il dit? Paul et Barnabas. Vous avez au verset 50, c'est Paul et Barnabas. Au début du chapitre, c'était Barnabas et Saul. Et là, en cours de route, ça devient Paul et Barnabas. Et vous allez même, chapitre 14, verset 1, c'est Paul et Barnabas. Chapitre 14, verset 6, c'est Paul et Barnabas. Chapitre 15, verset 2, c'est Paul et Barnabas. C'est-à-dire, Barnabas, c'est un homme, il n'a pas besoin d'être chef à tout prix. S'il voit que le Seigneur est en train de transformer Paul, il voit qu'il est en train de... Il le laisse faire. Hein, c'est Barnabas, c'est un gars qui est prêt à être numéro 2, il est prêt à être effacé, ne pas être vu, pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Et il laisse à Saul, qui devient Paul, et le laisse prendre le dessus. Peut-être qu'il s'est appelé Paul parce qu'il était petit de taille, hein, on ne sait pas, hein, c'était pas peut-être pas un grand gaillard, c'est une petite dynamite. Hein, et par la base, c'est le grand, plus âgé peut-être, qui est derrière, et il le suit. Une attitude. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir aussi dans l'Église de Jésus-Christ. C'était caractérisé de l'œuvre, c'était les serviteurs que Dieu avait su prendre. C'est des gens qui sont prêts. Il dit, oh non, mais moi je suis ici depuis longtemps, hein. Pourquoi lui il commence à faire ça? C'est pas une question. C'est est-ce que c'est mieux pour l'œuvre de Dieu? Gloire à Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu va être avancée, tant mieux. Hein? Même si lui il vient d'arriver et l'autre il est là depuis longtemps, c'est pas grave. On veut que l'œuvre de Dieu se fasse le mieux possible. Barnabas c'était quelqu'un qui savait reconnaître quelqu'un qui avait peut-être capacité d'enseigner. Peut-être qu'il maîtrisait mieux les langues. Il a vu très vite que quand lui parle et quand Paul parle, c'était pas la même chose. Les gens répondaient. Vraiment, ils étaient touchés par Paul. Il a dit, écoute, toi, tu prends la parole carrément, hein, ne m'attends pas, vas-y directement. Et on voit des situations. Hein, et donc, regardez au verset... 14, ils arrivent à Perge, et puis et ensuite de là, ils arrivent à Antioche en Pisidie. Ils rentrent dans la synagogue, et puis la synagogue, ils voient deux hommes comme ça qui ont l'air d'être des bons juifs. Alors ils disent, écoutez, messieurs, vous êtes en visite là, vous avez peut-être quelque chose à dire. Eh bien, regardez, verset 16. Qui est-ce qui prend la parole le premier? Paul. Hein, certainement que Barnabas, il a donné un coup de coude, il a dit, vas-y. Et il a pris la parole. Hein, c'est ça qui est extraordinaire avec Barnabas. Hein, il aurait pu dire à Paul, il dit, écoute, sans moi, toi, tu serais rien du tout, tu serais encore en train de faire des tentes là-bas à Tarse. Respecte-moi. Non, Barnabas, c'est, écoute, le Seigneur t'a choisi. Moi, je suis derrière toi. Vas-y. Hein, c'est cette attitude que nous voulons avoir en tant que chrétiens. Et finalement, qu'est-ce qui est... En fait, Barnabas est encore en train de former Paul. Là, le voyage, c'est le stage pratique. Et ils sont en train de faire le voyage, ils font le stage pratique, et Paul... Et bien, il reçoit le diplôme. Il reçoit, et Barnabas dit, ben là, tu es prêt, voilà le permis, tu peux y aller, tu peux conduire. C'est un peu cette formation. Et la chose, c'est, bon, parfois on a les idées, ben, c'est à l'Institut biblique, hein, on forme les pasteurs. Non, on ne forme pas les pasteurs. On éduque les pasteurs, les futurs pasteurs à l'Institut biblique, mais on les forme, c'est sur le terrain. Hein, c'est là que se fait. Et c'est là que l'apôtre Paul a été formé aussi. Donc Dieu a pris deux hommes. C'était, je pense souvent à mon père qui était agriculteur et il était à l'époque où on passait du cheval ou du mulet au tracteur, les premiers tracteurs. Papa il a vécu, il était agriculteur dans la transition. Alors il me disait quand on voulait former un nouveau jeune cheval ou plutôt c'était des mulets qu'ils employaient, eh bien on le mettait avec un vieux. Un qui est formé, solide. Et après, on met le jeune avec lui. Alors, le jeune, lui, il est prêt à foncer, il commence à tirer, il s'épuise à tirer. Alors, après, il est fatigué, donc après, il allait doucement. Mais l'autre, il continue la même vitesse. Mais éventuellement, le jeune poulain, là, il commence à apprendre à garder le rythme. Il démarre avec un rythme et il continue. Mais c'est un peu ce que Dieu a fait aussi. Il a mis Barnabas et Saul dans le même joug. Et puis il a dit, écoute, tu vas apprendre, parce que toi tu es un fonceur, mais puis après tu fatigues, maintenant tu vas apprendre à prendre le rythme. Et après, quand une fois que tu as le rythme, après toi tu peux travailler à part. Hein, et nous avons besoin de ça, de l'œuvre l'un sur l'autre. Alors Dieu, et c'est ça l'esprit qu'il faut dans une église, c'est ça que comme ça qu'on doit faire l'œuvre de Dieu, c'est comme ça que Jésus a formé ses hommes, et c'est comme ça qu'il forme encore ses hommes au sein de l'Église de Jésus-Christ. Et alors, on voit à la fin du chapitre 14, verset 27, ils ont fait le voyage, ils reviennent. Donc, les derniers versets du chapitre 14, c'est à la fin du voyage, verset 27, « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. » Vous vous rappelez, quand Jésus avait envoyé les 12 disciples, ils sont revenus et dit « Waouh, les démons, ils nous écoutaient, on a guéri les gens, on a fait ceci, on a fait ça. » Mais là, Paul et Barnabas reviennent, ils parlent de ce que Dieu a fait, pas de ce qu'eux ont fait. Quand les disciples sont revenus, ils pensaient à tout ce qu'eux, ils avaient fait, et Jésus a dit « Écoutez, venez, on va se mettre à part, on va discuter un petit peu, on va remettre les choses en ordre. Il faut que vous redescendez à votre niveau. » Mais là, Paul et Barnabas reviennent et ils disent, voilà, Dieu a fait de grandes choses. Il a ouvert, l'évangile a pénétré dans des régions inconnues avant. Ce que nous allons voir aussi, c'est que c'est pas comment Dieu forme ses hommes, mais aussi comment ces hommes ont donné le message de l'évangile. Alors, dans le chapitre 13, eh bien, à partir du verset 16, eh bien, nous avons Paul qui est dans une synagogue et on lui donne la parole. Et si je lis à partir du verset 16, regardez avec moi, acte 13, verset 16, dit Paul, se leva et ayant fait signe de la main, dit, « Hommes israélites, vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par un bras puissant. Il les nourrit pendant 40 ans dans le désert. Ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel, qui était le dernier juge. Et ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il suscita le roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors, il y a la première, c'est l'introduction. Il est en train de parler. Il est dans une synagogue, il est en train de parler à des juifs. Donc, comment il va leur parler? Il va leur parler de l'Ancien Testament, de leur histoire, de ce qu'ils connaissent. Et eux, ils vont l'écouter, ils disent, oui, c'est juste. Parce que ça, c'était peut-être un résumé. Et c'est exact. Mais c'est ça qui va permettre, ils vont dire, c'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui... Et en même temps, il est en train de dire, Dieu a fait. Il est en train de mettre en valeur Dieu, ce que Dieu fait, et en même temps, il est en train de leur donner l'occasion de tester, de voir s'ils connaissent. Non, c'est bon. Alors, on est avec toi. Premier principe, c'est que quand on évangélise, on commence avec ce que les gens connaissent. Lui, il a tenu compte du fait qu'ils étaient juifs, qu'ils connaissaient l'Ancien Testament, donc il va s'appuyer sur l'Ancien Testament. Il arrive à David, et tout d'un coup, à David, eh ben, il fait un bond pour arriver à Jésus. Ben, il a mis la fondation, mais dans sa tête, il sait où il veut aller, c'est Jésus-Christ. Alors regardez à partir du verset 23, il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ça, c'est nouveau, c'est une information nouvelle. Eux, ils ne savent pas ça encore. ils ont peut-être en parlé, oui, genre, à Jérusalem, on sait, ils ont eu des ennuis avec un certain Jésus, là, mais c'est tout ce qu'ils savent. Alors, il est en train de passer sur quelque chose de nouveau. Après, il dit, Jean avait prêché le baptême de repentance. Oui, ça, oui, on connaît. Et il dit à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, donc il arrivait à la fin de son ministère, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier ses souliers. Et il est en train de préparer. Il a dit, Jean, oui, on connaît Jean, c'était quelqu'un de bien, oui. Mais vous savez, Jean, ce qu'il a dit, il a dit, il y en a un qui vient après moi. Moi, je ne suis pas le Messie, il y en a un qui vient après moi. Et c'est lui, il est plus que moi. Et Saul est en train de dire, et vous savez, c'est lui, Jésus. Alors, après, verset 26, c'est là où il passe vraiment au message de l'Évangile. Parce qu'il a établi que ce Jésus, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, puis est fils de David, donc c'est pas n'importe qui. Et verset 26, il dit « Homme, frère, fils de la race d'Abraham. » Parce qu'ils aimaient être, qu'on les appelle, les fils d'Abraham. Ça, c'était... Alors, il sait comment leur parler. « Et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu, c'est-à-dire ils n'ont pas reconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli la parole des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Il a dit, oui, ils n'ont pas reconnu, ils ont crucifié, mais finalement, ils ont fait ce que Dieu avait voulu, que les prophètes ont annoncé. Parce que quoi qu'il n'ait pas trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, il souligne les prophètes, et les prophètes ont dit qu'il devait mourir, ils le descendirent de la croix, le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu, le Dieu qui a fait sortir notre peuple de l'Égypte, le Dieu qui a fait ceci, eh bien Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. Il dit, il y a des témoins, ils sont vivants, ils sont là encore. On peut aller nous renseigner. Il y a des témoins, ce n'est pas seulement un ou deux, il y en a toute une masse. Parce que, et nous savons qu'il y avait plus de 500 personnes à un moment, qui tous en même temps ont vu Jésus-Christ. Et alors, après, bon, tout ça, c'est du nouveau maintenant pour eux. Oh, tu en donnes beaucoup là. Alors, Paul, et après là, il commence à traiter des prophéties. Alors, après, il y a le passage que finalement, pour nous, c'est plus difficile à comprendre, mais pour eux, c'était clair, parce qu'il passait. Alors, il commence à citer les prophéties à partir de 32. Il est en train de démontrer que c'était annoncé que Jésus-Christ devait mourir et ressusciter, pas rester mort. Et donc, après, il arrive au verset 38. Il dit, voilà, maintenant, il dit, voilà ce que, pour vous, ce que vous avez besoin de savoir. Sachez donc, homme, frère, il est en train de dire, je suis juif comme vous, sachez que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Premièrement, votre premier besoin, c'est le pardon des péchés. Et c'est lui qui le réalise. Et verset 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Il dit la loi de Moïse, elle condamnait mais justifiait pas. C'est ça qu'on est en train de voir les jeudis soirs. Eh bien, il dit lui, il peut, c'est lui qui justifie ceux qui croient en lui. Ainsi, prenez garde. Et il dit vous devez le recevoir. Il est en train de parler, il est en train de présenter la personne de Jésus-Christ. Lui, il n'a pas parlé pour qu'on voit combien il était intelligent et combien il avait des connaissances. Il ne leur a pas dit, moi, vous savez, j'ai travaillé. Moi, mon professeur, c'était Gamaliel. Vous connaissez Gamaliel ? Gamaliel, le plus grand professeur à Jérusalem. C'est moi. Non, il est en train de présenter Jésus-Christ. Il se sert de ce qu'eux savent. Et puis après, il leur donne des informations nouvelles, il s'appuie sur l'Ancien Testament, il prouve que Jésus-Christ, et il dit Jésus-Christ, finalement, c'est en lui que vous avez le pardon des péchés, et c'est par lui que vous pouvez être justifié devant Dieu. Et ça, c'est comment Paul s'adresse aux Juifs. Et le point important, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ en qui on a le pardon des péchés, Jésus-Christ en qui on a la justification. Et il y a du monde, tout d'un coup, les gens sont très intéressés. Hein, vous voyez au verset 42, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes, donc des gens païens qui se sont convertis au judaïsme, pieux, suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Et donc certainement, toute la semaine, eh bien, ils ont eu des entretiens avec ces gens-là. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla. Si on pousse à bout et à Fréjus, hein, que toute la ville se présente à la porte, on aurait un problème, mais bon, ce serait agréable. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est là où ça provoque un problème. Parce que vous savez, vous connaissez les êtres humains, hein, vous n'êtes pas nouveau dans le monde. Dès que, il y a jalousie. Il y en a qui réagissent, non pas parce que ce qu'il enseigne n'est pas vrai, mais parce qu'ils sont jaloux du succès. J'aimerais bien pouvoir vous dire que ça n'arrive pas chez les chrétiens, hein, mais ça arrive chez les êtres humains. Et dès que la nature humaine prend le dessus, eh bien, voilà. Ils rejettent Paul, non pas parce que ce qu'il enseigne est faux, parce qu'ils ont pu prouver que c'était faux, mais par jalousie. Et par jalousie, eh bien, ils mettent fin à tout et créer des problèmes, il y aura la persécution, la persécution, ben, au verset 49, il dit « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville, et ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. » Voilà. Mais, la semence, elle a été semée. Et elle commence à pousser. Et Dieu a utilisé ces deux hommes, cette équipe bizarre, hein, deux hommes qui ne correspondent pas. Hein. Mais Dieu les a mis ensemble. Ensemble, ils se sont perfectionnés l'un l'autre. Ensemble, eh bien, Dieu se sert d'eux pour faire une œuvre. Ça, c'était un ministère et ça sera la méthode que l'apôtre Paul va toujours utiliser par la suite. C'est toujours quand il va quelque part, il commence par la synagogue jusqu'à ce qu'il ne le supporte plus et après, il se tourne vers les païens. Et c'est ce qu'il va faire ici. Mais ensuite, on arrive au chapitre 14 et au verset 1. Là, tout d'un coup, l'apôtre Paul se trouve dans une ville où il n'y a pas de synagogue. Et il rentre dans cette ville de Lystre, donc au verset 8. Il arrive à la ville de Lystre et Paul, il voit un homme là qui il peut pas marcher, donc il peut pas se sauver. Il lui parle. Et l'homme, il est obligé d'être là. Hein. Il est captif. Hein. Il peut pas marcher, il a jamais marché, il est coincé et Paul lui parle. Mais Paul lui parle, mais au fur et à mesure qu'il parle, l'homme... C'est pas seulement qu'il le supporte, il dit bon, celui-là, quand est-ce qu'il va. Ou il me donne l'argent, ou il s'en va. Non, non, il voit que cet homme est en train de vraiment écouter intensément. Il voit qu'il y a un travail qui se fait dans son cœur. La foi est en train de se développer dans son cœur. Parce qu'il dit, regardez, il dit au verset 9, il dit il écoutait par l'épaule, il écoutait. C'est pas il entendait, il écoutait. Hein? Donc il fait attention. Dans une classe à l'école, tous entendent, mais il y en a combien qui écoutent, hein? Mais là, cet homme écoutait. Et parce qu'il écoutait, et parce que Paul parlait, donnait la parole de Dieu, eh bien la foi est en train de se développer dans le cœur de ce païen. Et Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, hein, il ne l'avait pas avant, Mais ça s'est développé au fur et à mesure que Paul parle, cette foi, il la voit en train de se développer dans cet homme. Et il dit à cet homme qui n'a jamais marché, qui ne sait pas ce que c'est que marcher, ses jambes n'ont jamais fonctionné. Les muscles, ils ne sont même pas là. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais marché, les muscles ne sont même pas là. Hein. Les jambes sont maigres comme tout. Il lui dit, lève-toi, marche. Et l'homme se lève d'un bond. C'est pas seulement doucement comme ça. Non, il se lève d'un bond comme ça. Et puis il marche. Et il sait marcher. Parce que vous savez que celui qui n'a jamais marché, c'est pas marché. Hein? Chez l'être humain, la marche, ça s'apprend. Et si on cesse de la pratiquer, il faut réapprendre. Hein? On appelle ça... Mais là, c'est-à-dire, non seulement est-ce que à l'instant, Dieu lui met des muscles sur les os, mais en plus, cette période pour apprendre à marcher, l'équilibre et tout ça, eh bien, il lui donne au point où il peut faire un bond et il ne tombe pas par terre. Hein, moi, je ne suis pas sûr, même si je marche tous les jours, hein, vous me dites le matin, très tôt, l'alarme sonne, sauter puis, d'un bond et puis ne pas perdre d'équilibre, ce n'est pas évident. Mais cet homme-là, tout de suite. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein, il est maître de sa création. Et cet homme est guéri. Et ça se passe un peu comme ça s'est passé à Jérusalem, hein, où il y avait un homme qui avait, pendant 40 ans, il n'avait pas marché, et tout d'un coup, ça a fait du bruit, comme on dit. Et bien là aussi, tout d'un coup, alors les païens, ils arrivent, ils disent, ah, Barnabas, c'est Saul, et tous les deux, ils prennent, c'est des dieux qui sont venus nous voir, et c'est excellent. Vous voyez, la première tendance, c'est de vouloir assimiler dans leur religion. L'évangile, écoutez, vous êtes des gens très bien. Venez nous joindre à nous. Et puis, je parlais avec un frère à Saint-Denis, là, et je demandais des nouvelles sur une implantation d'église qui doit se faire à Sarcelles, près de Saint-Denis. Ils avaient vu quelqu'un qui a une église qui est là. Et ils l'ont demandé, est-ce qu'on peut utiliser votre regard pour démarrer comme ça? Il dit, oui, vous pouvez venir, et puis après on pourra faire des réunions ensemble, et puis vous pourrez tout ça, et puis prier avec nous, tout ça. Après, tu n'as plus de message. Tu rentres dans une église avec des gens qui ne prêchent pas la parole de Dieu, et puis après il veut que tu mélanges avec eux, après il n'y a plus de message. Et là, c'est un mot qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme où on essaie de faire fusionner des doctrines. Et ça se fait, de nos jours, il y a beaucoup de cela. Hein? Et souvent, on fait le syncrétisme avec les pensées du monde, et puis on essaie de mettre l'évangile, et puis on fait des mélanges, et on a des drôles de salades. Hein? J'ai rien contre les salades. Mais c'est le fait que ça fait un cocktail, qui n'est pas bon. Et vous savez, dès qu'on mélange autre chose à l'évangile, eh bien, ce n'est plus l'évangile. Et parfois, on met un peu de nos coutumes, parfois on met un peu de nos valeurs, parfois on met un peu de notre société. Notre société a évolué, alors on essaie de faire... Non, c'est l'évangile ou bien laisse tomber. Hein? Et Barnabas et Saul, ils étaient là, ils disent, « Waouh, tout ce monde qui vient, et tout ça !» Ben, si on laisse passer un petit peu comme ça, et puis ils vont nous écouter comme ça. Non, ils ont dit non, pas de mélange. Ils disent non, écoute, arrêtez, on n'est pas des dieux, ne faites pas de sacrifices, arrêtez. Nous sommes des hommes comme vous, et puis on veut vous parler du Dieu créateur. Ah bon? Ils n'ont rien compris, ça a mis un froid, c'était la douche froide pour ces prêtres-là. Mais vous savez, pour les Barnabas, eh bien, ils résistent à ce désir du compromis. Et même si ça va leur gâcher une opportunité de parler, hein, mais ils vont le faire, mais ils vont essayer de parler quand même. Et donc, dans ce chapitre 14, bien sûr, c'est Paul qui prend la parole. Et au verset 15, voilà ce qu'il dit. Maintenant, il n'est plus dans une synagogue. Donc, il ne parle pas du tout comme il a parlé dans une synagogue. Hein, là, c'est des païens qui ne connaissent rien de l'Ancien Testament. Ils ne connaissent ni Moïse, ni Abraham, ni David, ni rien du tout. Alors, il ne va pas leur dire, il va pas, moi, j'ai le sermon de la semaine dernière, je vais vous le donner. Non, non, c'est quand même autre chose. Et au verset 15, il dit en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. » Voilà, il dit, « Moi, les hommes comme nous, mais on porte un message. » Une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Laissez tomber ces choses-là, on vous présente un Dieu vivant. Et est en train de leur dire, ce que vous avez là, c'est des dieux qui ne sont pas vivants. Hein, c'est des pierres, c'est une imagination. Donc, vous parlez du Dieu vivant. Et c'est qui ce Dieu vivant? Il dit, le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tout ce que vous voulez, voilà, parce que là, il les avait nommés selon Mercure, et puis l'autre, c'était qui Jupiter. Oui, Zeus. C'est deux noms. Et il dit, non, écoutez, moi, je vous parle du Dieu qui est supérieur à cela, parce que c'est lui qui a créé ces astres. Il est le créateur de tout cela. Il est au-dessus de tout cela. Et il dit, ce Dieu, verset 16, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Il a dit, voilà, Dieu, il a laissé tout le monde faire ce qu'il avait envie de faire, et voilà, vous êtes là. Mais, il dit, quoi qu'il n'ait laissé, rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien et en vous dispensant du ciel, les pluies, les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture en abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il a dit, oui, vous avez été faire ce que vous avez voulu, mais la nature que vous voyez tout le temps n'a pas cessé de rendre témoignage de lui. Et il vous a donné des récoltes. C'est lui qui vous a donné, c'est pas ce Dieu-là qui vous avez sacrifié, c'est ce Dieu dont je vous parle, c'est lui qui vous a donné les récoltes, c'est lui qui vous a donné ce monde, c'est lui qui vous a donné la santé qui vous permet de vous réjouir. Et regardez comment il parle avec les Juifs, il n'a pas besoin de leur dire qui est Dieu. Mais comme il a affaire à des païens, il est obligé d'établir qui est Dieu. Et je crois que c'est important pour nous de savoir aussi, quand on parle à quelqu'un, mais ce n'est pas juste comme une cassette de dire ce qu'on a appris à dire, mais c'est de répondre, de retrouver chacun sur son terrain. Celui qui ne sait pas grand-chose, eh bien on commence avec ce qu'il a. Et pour eux, c'était une question d'établir qui est Dieu. Mais il avait une pensée claire, c'est qui est Dieu. Ce n'est pas Dieu, mais qui il est et qui il peut être pour vous. Hein. Et c'est important ce verbe être associé à Dieu. Vous souvenez quand Moïse, il a dit, mais comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Je suis. C'est important. C'est pour Dieu, le Dieu du ciel, le vrai Dieu, c'est un Dieu qui il veut être connu pour ce qu'il est, et pas seulement un nom. Le témoin de Jéhovah, vous savez, il vient de vous parler, il dit, c'est quoi le nom de Dieu? Je dis, mais c'est pas important, c'est qui il est. Ce qu'il est pour moi, qui importe, ce n'est pas son nom. Il a beaucoup de noms. Finalement, ses noms, ce sont ses attributs. Et donc, en fonction de là où il intervient, et il a dit « je suis », c'est-à-dire « je suis ce dont tu as besoin ». Quand tu as besoin de nourriture, je suis ta nourriture. Quand tu as besoin d'un protecteur, je suis ton protecteur. Quand tu as besoin d'un guide, je suis un guide. Quand tu as besoin d'eau, je suis le rocher duquel vient l'eau. Je suis tout ce dont tu as besoin. Et c'est comme ça que nous devons connaître Dieu. Alors, il leur dit, il y a un témoignage qui est là, Et dans Romains, juste je voulais lire Romains chapitre 1, versets 20 et 21, parce qu'il a dit, ce témoignage est là depuis toujours. Et donc Romains 1, versets 20 et 21, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère, si on prend le temps de réfléchir, hein, c'est notre monde, il ne veut pas prendre le temps. Il dit non, non, ça n'existe pas, il n'existe pas, tout ça. Je dis, mais attends, réfléchis, non, laisse tomber, moi je ne veux pas, j'ai pas de temps à perdre. Il dit, mais c'est clair, c'est évident. Qui Dieu est. Je me rappelle quand j'étais au lycée, on a vu l'anatomie de l'homme et puis la capacité de se reproduire. J'entendais à la maison, Dieu a créé. J'entends à l'école, c'est le hasard, tout ça. Mais après, quand on a étudié, on a vu la naissance de l'être humain, combien c'est complexe, je me suis dit, ça ne peut pas venir par hasard. Quelque chose d'aussi complexe, déjà quelque chose de simple comme une montre, j'arrive pas à le faire, ça vient pas tout seul. Hein, si je trouve une montre dans la forêt, je vais pas dire, tiens, oh, c'est le sable, le vent et la pluie et tout ça, et puis ça fait une montre, hein, c'est super. Ça m'arrive pas, la pensée ne me vient pas, je dis, tiens, il y a quelqu'un qui est passé, ça doit être un Suisse qui est passé par là. Je vais penser à quelque chose, je vais penser à un horloger, mais je vais pas penser à la pluie, le vent et les sangliers, hein. Alors, mais quand je regarde la naissance d'un enfant, hein, là, on a le petit Evan qui est là, et bien lui, c'est une merveille. C'est une merveille. Les médecins, ils n'arrivent pas à comprendre cela. Depuis des siècles qu'ils sont en train d'étudier, mais il reste plein de mystères. Après, on se dit, c'est venu tout seul comme ça, au hasard. C'est pas possible. Et vous savez, là où je... Bon, il ne faut pas que je me laisse partir, là, mais... Oui, il nous dit au hasard l'homme s'est développé. Les chances s'est développées. Là, s'est développé un homme, là, s'est développé une femme. Et puis après, par chance, ils se sont retrouvés. Et c'était la même année qu'ils sont devenus hommes et femmes. Mais vous regardez, vous étudiez la science des... Ah là, c'était pas prévu, là. Mais ils nous disent que, en fait, la première femme est venue de l'Afrique et le premier homme, il est venu d'un autre. Et puis, il y a des siècles entre les deux. Comment voulez-vous... Alors, et s'ils ne se sont pas au même stade d'évolution, il faut qu'ils soient exactement au même stade d'évolution pour se rencontrer, pour faire un enfant. Ils n'ont pas des millions d'années pour le faire. Ils n'ont vécu pas si longtemps. Et après, on me raconte, on me dit, vous croyez ça? Écoutez-moi, laissez-moi vous parler de Dieu. Non, 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 je ne veux pas. Vous savez, les réalités de Dieu, qui Dieu est, c'est évident pour celui qui le considère, qui prend le temps de considérer, de réfléchir. Et l'apôtre Paul, il vient, il parle à ces gens qui ne connaissent pas Dieu, il dit, écoutez, arrêtez-vous, réfléchissez. Et les grâces de Dieu sont là pour nous montrer Dieu, pour connaître Dieu. Et c'est comme ça, et c'est, donc le message de l'Église primitive, eh bien, c'était qu'en évangélisation, l'apôtre Paul, c'était celui qui a su s'adapter pour parler à celui-ci, parler à cela. Je parle à un enfant, c'est pas comme je parle à un adulte. Je parle à quelqu'un qui a fait des études, c'est pas comme... Jésus n'a pas parlé de la même manière à Nicodème comme il a parlé à la femme samaritaine. La femme samaritaine n'avait aucune connaissance. Nicodème, c'était un érudit de la loi. Dieu n'a pas parlé, Jésus n'a pas parlé de la même chose. Et donc, nous devons aussi connaître l'Évangile de telle manière à ce qu'on sait le présenter à chacun. Bien sûr, il faut l'avoir compris. Et... on arrive à chapitre 14, verset 26. Il a dit de là, eh bien, il s'embarque pour Antioche. Il retourne à Antioche. d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Ah, maintenant on comprend ce que c'était. Il dit, l'œuvre, mettez-les à part pour l'œuvre que j'ai réservée pour eux. Et puis à la fin du chapitre 14, il dit, voilà, c'est ça l'œuvre qu'ils avaient pour eux. C'était cette formation, en travaillant ensemble, ils sont chacun devenus meilleurs, et puis ils ont présenté, ils ont su comment présenter le message à des juifs, et présenter le message à des païens, mais toujours le même message. Et verset 27, il nous dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Voilà. Et ils se réjouissent de ce que Dieu a fait, et Dieu a ouvert la porte de la foi à tous. Et la porte est encore ouverte aujourd'hui. Et c'est à chacun de voir vraiment dans son cœur qui est Jésus, qui est Dieu, et de vraiment placer notre foi en lui. Et après, Dieu peut nous transformer comme il a transformé l'apôtre Paul, qui lui, c'est carrément, il a changé de direction. Il était dans ce sens-là, maintenant il va dans ce sens-là. Celui qui détruisait, maintenant construit. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Nous sommes reconnaissants pour le message. Le message est le même et nous ne voulons pas le diluer. On ne veut pas l'associer à autre chose pour qu'il passe mieux, parce qu'il perdrait tout son pouvoir. Père, nous voulons prêcher la parole pure, simple, et la laisser agir. Et elle peut sauver chez le juif, comme elle peut sauver chez le païen qui n'a aucune connaissance. Et Père, nous te remercions pour ce message que nous avons. Et donne-nous aussi de subir cette formation alors que nous sommes entre nous, afin de devenir meilleurs. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.